Grieg ou l'âme de la Norvège.
Il était une fois, au nord de la Norvège, un garçon qui fit un rêve. Dans ce rêve, il voit le visage d'une jeune fille. Elle a la peau blanche comme la neige, les lèvres rouges comme le sang. Elle est belle, belle. Quand le garçon se réveille, l'image de la jeune fille est toujours là, si vivante que vivre sans elle n'aurait plus de sens. Alors il part. Il marche. Il va loin, plus loin que loin. Il traverse des forêts, des montagnes. Il traverse des saisons et l'hiver tombe sur la Norvège.
Ce conte populaire ressemble étonnamment à la vie d'Edvard Grieg, le compositeur norvégien. Lui aussi fit un rêve qui dura toute sa vie. À 18 ans, au conservatoire de Leipzig, il disait
« Je me fais l'effet d'un paquet bourré de rêves ».
À cette époque, après les années 1850, la Norvège, bien qu'indépendante, cherche son autonomie culturelle, après 4 siècles de domination danoise. Il semble que l'âme de la vieille Norvège se soit envolée. Les artistes sont obligés d'aller se produire, d'aller faire leur classe à l'étranger, en suivant les traces des maîtres allemands. Mais Grieg a d'autres ambitions qu'il partage avec son ami Richard Nordraak. Lui aussi musicien remarquable et fortement attaché à son pays.
Nous devons prendre la tête d'une véritable croisade pour la fondation d'une école musicale vraiment norvégienne, nourrie des rythmes populaires traditionnels.
Grieg et Nordraak fondent alors une organisation pour la promotion de la musique scandinave. Tous les créateurs norvégiens semblent faire corps avec le patrimoine national. Pourquoi M. Régis Boyer, dans l'œuvre de ses créateurs, se désire de mettre en valeur la nature et la tradition ?
C'est pas facile d'être norvégien en 1850, c'est tout. C'est la seule chose que je peux vous répondre, finalement, hein ? Parce que vous êtes en porte-à-faux constamment. Entre la norvégianité que vous revendiquez et l'obligation d'être international si vous voulez avoir une audience quelconque. Pour donner un exemple clair, Ibsen, par exemple, hein, le grand écrivain que vous connaissez, il a résolu le problème en allant passer 27 ans de sa vie à l'étranger, 27 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte, en Allemagne et en Italie. Il est revenu en Norvège au bout de 27 ans. Il a composé toute son œuvre en Allemagne ou en Italie. C'était le problème scandinave de cette époque-là. C'était rester sur place et pourrir sur pied, ou bien s'en aller à l'étranger pour essayer de s'épanouir. Alors, il est en porte-à-faux, Grieg. D'ailleurs, ça se sent dans sa musique parfois. Alors, on sent que de temps en temps, il est content de faire du folklore, comme vous diriez aujourd'hui. Et de temps en temps, il se rappelle que « Ah non, attention, je vais écrire un grand opéra international. » Alors, il fait du sous-massenet, il fait des choses comme ça. C'est évident, hein.
Les deux amis, Grieg et Nordraak, travaillant dans un même esprit, décident d'aller passer l'hiver en Italie, où les Nordiques, dont le dramaturge Ibsen, forment une nombreuse communauté. Grieg part donc pour Rome, mais Nordraak préfère auparavant faire un court séjour à Berlin. Mais, rongé par une tuberculose galopante, il y meurt quelques mois plus tard. Grieg, apprenant la nouvelle, est accablé. Il écrit
« Sa cause sera ma cause, et son but sera le mien. J'ai la puissante vocation d'attirer l'attention de notre peuple norvégien sur ses œuvres, de combattre pour la reconnaissance qu'elle mérite. Dans mon journal romain, je marque ce jour d'une croix noire. J'écrirai pour mon ami une marche funèbre. »
À 24 ans, Grieg semble avoir rencontré la femme de sa vie, Nina, une cantatrice qui devient l'interprète la plus remarquable de ses mélodies.
Jacques, le fils du pêcheur, était un brave garçon. Il aimait bien flâner le long des plages. S'il marchait suffisamment longtemps, il arrivait à un lac de mer. Oui, la mer entrait par un petit goulet qui grandissait pour former un lac. C'était là qu'il avait vu pour la première fois la sirène. Avez-vous déjà aimé si fort, que rien ne peut vous empêcher d'arriver au bout de vos rêves? Jacques voulait sa sirène. « D'accord, lui dit sa tante, mais tu ne peux l'attraper qu'avec un filet magique. Tu dois voir Rory, le vieux fabricant de filets, et lui, lui seul pourra. »
Grieg a trouvé son filet magique. Et Nina est devenue Madame Grieg. Grieg cherche les racines de la Norvège. Il puise à pleine coupe son inspiration dans les contes, les légendes, les traditions déjà recueillies.
Dans toute l'Europe, il y a eu des spécialistes qui ont parcouru les campagnes, qui ont écouté les petits vieux raconter des histoires et qui les ont consignées et qui les ont publiées. Alors les deux spécialistes qui se sont chargés de ça en Norvège, c'est Asbjørnsen et Mo, en effet. Et ils ont passé les années de leur vie à recueillir tous les contes populaires qu'ils ont pu entendre. Ils en ont publié, j'ai oublié, mais d'un nombre ahurissant de volumes, une douzaine de volumes au moins. Ça s'inscrit exactement dans le même mouvement que Grieg s'efforçant de retrouver, en la mettant, si je peux m'exprimer vulgairement, de la sorte à la sauce internationale, de retrouver l'âme populaire à travers le chant, la mélodie. C'est exactement le même effort. Alors, c'est pas les contes de ma mère Lois, c'est pas les contes de Perrault, c'est vraiment des contes populaires, les contes d'Asbjørnsen et Mo. Il y en a qui sont sympathiques à entendre, mais enfin, c'est pas de la grande littérature.
1870. Bjørnson est un écrivain très connu. Sa prose, sa poésie, son théâtre font une très grande impression dans toute l'Europe. Lui aussi cherche l'âme de son pays, Régis Boyer.
Il a vraiment écrit des pièces historiques pour ressusciter le passé de Norvège. Il a vraiment écrit des romans dits paysans pour mettre en scène des pêcheurs, des paysans tels qu'ils existaient de son vivant, à lui, Bjørnson. Il a vraiment écrit des pièces de théâtre pour mettre en scène les problèmes qu'il pouvait avoir cours chez ces gens-là. Il n'y a que vers la fin de sa vie qu'il s'est tourné davantage vers l'inspiration internationale et qu'il a écrit des pièces, d'ailleurs, belles pièces, qui s'appellent « Au-delà des forces humaines », etc. Mais c'est Bjørnson qui est le plus représentatif de la volonté de retrouver cette âme populaire qui leur avait été volée par les Danois.
Un caractère pas facile, Bjørnson. Un caractère pas facile, Grieg. Pourtant, les deux hommes se rencontrent, se fréquentent, s'apprécient, se comprennent, pas facile, et travaillent ensemble. Les meilleurs poèmes de Bjørnson passent entre les mains de Grieg, qui les met en musique. Pour Grieg, Bjørnson est le porte-parole de l'identité nationale norvégienne. Un jour, le musicien joue une de ses pièces lyriques pour piano et Bjørnson, très inspiré, écrit des paroles dessus. Ce chant deviendra l'hymne des étudiants. Grieg découvre une anthologie de musique populaire réunie par Lindemann. La richesse et la variété de la musique traditionnelle s'imposent de plus en plus au compositeur et le confortent dans l'idée que c'est le terrain dans lequel il faut fouiller, au plus profond de cette musique, de ses contes, de ses légendes nordiques.
Pas très loin de Télémark vivait jadis un pauvre pêcheur et sa femme, qui ne possédaient qu'une chaumière, une vieille baraque avec quelques filets raccommodés. Dans cette vie misérable, ces deux pauvres gens n'eurent qu'une seule joie, leur fils Olaf. Ce fut un enfant très sage, filets raccommodés et toujours de bonne humeur. Olaf avait une très très bonne vue. Il voyait même ce qui était invisible. Et quand il passait sa main sur son visage, il devenait lui-même invisible. Un jour, le vieux pêcheur, surpris par un orage, ne revint plus. Le lendemain, la mer rejeta sa barque renversée. Alors, Olaf...
Le théâtre norvégien était bâti sur des œuvres où le texte alternait avec les chants et les danses. Mais peu à peu, le grand dramaturge Ibsen imposait un théâtre parlé. Et il ne pouvait concevoir son drame poétique Peer Gynt qu'avec une musique de scène digne de son œuvre. Il écrit donc à Grieg.
J'ai en vue une production scénique de Peer Gynt. Pourriez-vous composer la musique pour la circonstance ? Je veux vous expliquer comment j'entends procéder dans mon adaptation. Je voudrais que le monologue de Peer Gynt soit traité comme un mélodrame ou comme un récitatif. La scène nuptiale doit gagner en impact par rapport au texte grâce au ballet. Il faut composer pour cela un thème dansant qu'on conservera jusqu'à la fin de l'acte.
Au début, on ne peut pas dire que Grieg soit emballé par ce projet.
Peer Gynt avance très lentement. Et je ne vois pas comment je pourrais finir pour l'automne. C'est un sujet intraitable. En dehors des passages, comme par exemple le moment où Solveig chante.
Peer Gynt, en tant que poème dramatique, était une œuvre mettant en scène un personnage étrange et séduisant. Qui est ce personnage de Peer Gynt, Régis Boyer ?
C'est le type du hableur, du raconteur de sornettes, qui se gonfle, et dont on finit par découvrir qu'en fait, il n'a rien fait de ce qu'il a dit, et qu'il est plus à plaindre qu'à craindre, comme dirait l'autre, n'est-ce pas ? Et cet aspect-là, Ibsen a très bien vu dans la pièce, n'est-ce pas ? Le côté vantard, etc. Les Norvégiens ont un trésor de contes populaires qui, en grande partie, est dicté par le décor. Il faudra que vous alliez vous promener en Norvège une fois. Il y a des montagnes fantastiques, il y a des rochers qui ont été sculptés par les glaciers, il y a des paysages absolument fabuleux, et l'imagination populaire, là comme partout ailleurs, mais plus que partout ailleurs, parce que le décor est vraiment beaucoup plus propice à inventer des sauts merveilleux de chevaliers sur son cheval, de trois sœurs, qui ont été sept sœurs en fait, qui ont été pétrifiées par un sorcier. C'est le décor qui suggère ça. Alors, la montagne de Douvres est censée depuis toujours être habitée par des géants, des fantômes, des gens comme ça. Il y a une tripotée de légendes qui courent autour de ça. Ibsen, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est allé sur place pour se documenter, il a noté certaines de ces légendes. Et on ne peut pas dire qu'il en a ramené une légende particulière, il en a ramené des personnages, en fait. Les trolls, le vieux de Douvres, etc. Son imagination a travaillé autour de ces éléments-là, mais il n'y a pas de conte populaire à proprement parler dans Peer Gynt.
J'ai également composé quelque chose pour la grotte du vieux de Douvres. Et je n'en peux plus de l'entendre tellement c'est plein de bouses de vaches et de nordes dingueries posées à toi-mêmisme, la devise des trolls.
Pourquoi Régis Boyer, Grieg ne montrait-il pas un grand enthousiasme pour Peer Gynt et ne croyait-il pas en une réussite scénique ?
Il y a une opposition entre le fond que vous diriez folklorique, norvégien, traditionnelle et les tendances qui avaient cours dans l'Europe cultivée à cette époque-là. Alors, il est clair que si vous avez un jour entendu des mélodies du Harlanger Fehl, le violon du Harlanger, ou si vous avez vu une danse appelée Schlotter, oh, ça n'a rien à voir avec les grands ballets de M. Paul Dukas ou avec les grands concertos pour violon des romantiques allemands. Hein. Alors, c'est ça qu'il voulait dire. Il voulait dire que ça n'était pas... je vais lâcher un mot qui est un peu absurde, c'était pas exportable, si vous voulez. Mais lui a réussi à rendre ça exportable, mais grâce à l'alchimie de sa création.
Donc il parlait de bouse de vache et de nordingri. Alors, c'est un peu péjoratif en parlant de...
Il est en porte-à-faux. Il récuse sa culture norvégienne traditionnelle parce que ce monsieur, qui avait un sale caractère et qui pensait à juste titre d'ailleurs, être au sommet de l'intelligentsia de son pays, il voulait faire quelque chose de chic, d'international, d'à la mode, etc. Et il souffrait un peu d'avoir les pieds dans la bouse de vache, voilà ce qu'il veut dire. Mais il n'est pas sincère en disant ça, je crois pas, hein.
L'œuvre est donnée pour la première fois le février 1876. Gros succès. Grieg s'en est si bien tiré qu'il semble que ce soit la musique qui porte l'œuvre théâtrale. D'ailleurs, un critique écrit
« Dans quelques années peut-être, le Peer Gynt d'Ibsen ne vivra que par la musique de Grieg. »
Grieg est maintenant au fait de sa gloire. Il est demandé un peu partout en Europe. Il donne des cours de piano et d'harmonie pour ce qu'on appellerait aujourd'hui des masterclass. Il est chargé en outre d'un travail de critique musicale. En août 1876, il part pour Bayreuth où se prépare un grand événement. La première représentation intégrale du Ring de Wagner. Le lendemain de la première représentation, Grieg écrit
« Je ne puis guère me permettre de discuter la musique de cette œuvre gigantesque. Elle représente un tel univers de grandeur et de beauté qu'on en sort ébloui. Je n'hésite pas à considérer la musique de Wagner comme un cas unique dans la musique dramatique moderne. Très loin à l'ouest, dans les montagnes, se trouvait un petit village. Aucun chemin n'y menait et aucun chemin n'en partait. Ceux qui habitaient ce village étaient en outre simples d'esprit. Un soir, quand la lune fut toute ronde et qu'elle luisait au-dessus des formes arrondies des collines, deux compères sortirent de l'auberge du village. « Elle éclaire bien ce soir, » dit le premier. « J'aimerais mieux la voir dans ma chaumière. Je n'y vois goutte, » dit le second. « Rien de plus facile. Nous monterons sur la colline, nous décrocherons la lune et nous la partagerons entre nous. » Aussitôt, ils se mirent à monter sur la colline. Elle était assez haute. En arrivant en haut, on entre...
Tout semble prêt dans l'esprit de Grieg pour créer l'opéra national dont il a tant rêvé. Mais les deux plus grands écrivains de la Norvège qui pourraient l'aider, Ibsen et Bjørnson, commencent à s'orienter plutôt vers une pensée littéraire plus moderne, plus réaliste. Et Grieg est un peu isolé, entouré de ses légendes et de ses mythes nordiques. Alors avec sa femme, il décide de s'éloigner de la ville. Il va s'installer dans la région du Hardanger, ce beau pays de montagne à peine exploré. Il se fait construire une cabane en rondin dans laquelle il met son piano et une chaise. C'est là qu'il travaillera au milieu de la nature.
Les jours de tempête, quand le vent agite notre maison, secouant les portes et les fenêtres, comme un immense orchestre de fantômes, je reste assis dans un coin en écoutant. Je plonge dans les vieilles ballades scandinaves et l'une d'elles m'a séduit. Je dois écrire pour elle avec le sang de mon cœur. La légende des géants produit un effet si fortement démoniaque que je me suis laissé emporter moi-même. Il est possible que cette œuvre constitue une des rares bonnes actions de ma vie. Si forte.
Les séjours répétés dans le Hardanger rapprochent Grieg des traditions toujours vivantes du folklore musical. Il se lie d'amitié avec certains violonistes de la montagne et note leur danse, leur marche nuptiale. Pourquoi Grieg et d'autres écrivains, d'artistes scandinaves, sont-ils si près de la nature et semblent même parfois enchaînés à elle ?
Ils ont un rapport à la nature qui est beaucoup plus développé que nous. Pour deux raisons. La première, c'est qu'ils sont très peu nombreux. Il y a 4 millions de Norvégiens pour une superficie comparable à celle de la France. Hein. Et la deuxième raison, c'est que le décor est hostile à l'homme dans ces pays-là. C'est-à-dire, il n'y a pas de Provence ou de sud-ouest de la France, en Norvège, en Suède, en Danemark. Il faut se battre constamment contre. Donc, ils sont obligés de vivre en symbiose, vraiment, avec le décor. C'est des pays qui ont été obligés de tout temps de développer de l'énergie, du dynamisme, sinon ils meurent. Ça a donné au fil des siècles une espèce très, très solide et pour laquelle la nature compte de façon capitale, puisque c'est vivre avec la nature ou ne pas vivre du tout. La société norvégienne, c'est la société rurale, un point c'est tout. Avec tous les caractères de la culture agraire traditionnelle, certains types de valeurs morales, une attention extrême au regard d'autrui, à la réputation, tous les caractères. Alors ça se perd dans la nuit des temps, ça remonte très loin. C'est ça la culture norvégienne dont ont essayé de s'émanciper vraiment furieusement les grands écrivains que sont Bjørnson, Sjælland, Lee, Ibsen et ce grand musicien qu'est Edvard Grieg.
Grieg est invité partout, en Allemagne, en Hollande, à Saint-Pétersbourg, à Madrid. Partout, on veut le voir jouer et diriger. Mais malgré l'enthousiasme avec lequel Grieg est toujours accueilli en Angleterre, il lui est difficile d'y retourner. Il redoute les voyages en mer, et encore plus, les dangers des grandes villes industrielles sous leur voile de fumée. Il écrit à un ami anglais qui veut organiser un concert.
Si tu veux me voir et m'entendre, j'exige que durant notre séjour à Manchester, tu chasses hors de la ville le maudit fog, puisque d'après ce qu'on dit, il suffit que tu émettes un ordre et la ville entière t'obéit.
Pauvre Grieg, aujourd'hui, il refuserait de jouer dans toutes les grandes villes du monde. Il resterait dans ses montagnes. Au cours d'un séjour chez Björnsson, il rencontre Édouard Colonne, qui lui propose de diriger quelques concerts à Paris. Mais en 1899, nous sommes en plein dans l'affaire Dreyfus. Alors, Grieg répond :
Je vous remercie,
mais
je ne puis me produire dans un pays où de tels dénis de justice sont possibles.
Ses propos sont repris par les journalistes et les Français, blessés, promettent à ce compositeur de la musique juive de le recevoir s'il prend le risque de venir à Paris à coups de pied dans la partie la moins noble de son individu, ce qui fait sourire Grieg. Mais lorsque 4 ans plus tard, et croyant les ressentiments calmés, il vient se produire à Paris, il doit être escorté par la police jusqu'à son hôtel. Grieg n'a cure de ses mouvements qu'il n'altère pas son moral et ne change rien à son œuvre. Escorté plus que jamais, il cherche son inspiration dans la tradition et la nature. Il invite Knut Dahl, virtuose du violon traditionnel du Hardanger, et ensemble, ils recueillent les mélodies populaires. Les moments passés avec ce violoniste des montagnes marquent profondément le compositeur.
Aujourd'hui, j'ai sauvé de l'oubli 2 Schlotter. Ils ne sont pas faciles à noter. Il y a des petits ornements et des trilles qui font penser à une truite dans un torrent. Essaie d'attraper, hop, elle n'est plus là. Je travaille mon violon du Hardanger tous les jours. Et je n'ai toujours pas saisi le truc.
L'année 1905 est dramatique pour l'Europe. Strasbourg a connu un dimanche rouge. De sanglantes échauffourées ont opposé la troupe aux ouvriers. Les marins du cuirassé Potemkine se sont mutinés. En Scandinavie, les Norvégiens veulent obtenir un drapeau purifié, sans l'emblème de l'union avec la Suède. Les relations se tendent entre les deux pays. On parle de mobilisation.
J'ai dû abandonner les concerts en Finlande car je ne peux pas traverser la Suède. Cela semble incroyable, mais le chauvinisme dans ce pays a atteint de tels sommets qu'il chasse les Norvégiens vivant chez eux et rejette ma musique sous les sifflets et autres gracieusetés.
Heureusement, les autres pays d'Europe accueillent Grieg avec enthousiasme. Sa nouvelle tournée en Angleterre est triomphale.
À Oxford, on m'a fait docteur honoris causa. Ainsi, je pourrai maintenant soigner mes amis et moi-même.
Hélas, sa santé est chancelante, car la tuberculose le ronge. Cette maladie fait des ravages en ce début du XXe siècle. Pourtant, Robert Koch vient d'identifier le bacille. Mais Grieg ne pourra pas bénéficier des travaux qui s'en suivront. À l'hôpital de Bergen, il tombe dans le coma et meurt calmement au petit matin, le 4 septembre 1907. Il a 64 ans. Personnes suivent le cortège de son enterrement. Les cendres du compositeur reposent aujourd'hui dans une grotte donnant sur un fjord, dans ce qu'il a aimé le plus, dans ce qu'il a célébré le mieux, la nature. ou l'âme de la Norvège. Avec la voix de Marc-Henri Boisse et la participation de Régis Boyer, professeur de civilisation scandinave à la Sorbonne et auteur notamment de « Les sagas légendaires » aux éditions des Belles Lettres, « Héros et dieux du Nord » chez Flammarion et « Les études scandinaves en France » chez Didier R. Édition. Documentation de l'ambassade de Norvège à Paris que nous remercions. Reportage Jean-Baptiste Fourré. Prise de son, Georges Thau. Mixage, Jean-Michel Coquille et Annick Brien. Réalisation, Emmanuel Joffre. Si vous désirez réécouter nos émissions, nous avons un site internet www.franceinter.com et également une adresse électronique robert.arnaud@franceinter.fr. Au revoir, à dimanche.